font réagir. Une vue d'ensemble de l'actualité. Midi plus. Voici Robert Pilote.
Midi, une minute de jeudi, vous êtes en vacances, profitez du temps qui passe. Allez, sortez, profitez de toutes les belles activités que la Mauricie a à vous offrir aujourd'hui. Soleil, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la semaine prochaine. Si vous voulez être arrivé, il est en studio, on va passer toute une heure avec nous autres aujourd'hui.
Salut Marc-André.
Bonjour, Robert, mon nom.
Mais, puis moi, c'est Marc-Antoine.
Ben oui, c'est Marie, ça va pas bien mon affaire. En le disant, j'ai dit c'est Marc-Antoine, c'est Marc-Antoine. C'est ça. Allez, le beau Marc-Antoine, puis bon. Mon cher Robert.
Le beau Robert, le beau Robert. Et donc, Julien, on va avoir quelques sujets d'actualité. Vous êtes les bienvenus, vous voulez nous parler, vous confier, nous dire des affaires, 376-1069. Et puis, on va vous parler d'abord et d'entrée de jeu d'actualité.
Oui, Robert, une collision mortelle est survenue vers 9 h sur l'autoroute 20 à Drummondville. Un conducteur âgé circulant en direction ouest vers Montréal aurait fait une manœuvre possiblement pour aller prendre le virage en U lorsqu'un véhicule qui circulait aussi en direction ouest est entré en collision avec son véhicule. L'homme au volant du premier véhicule a subi des blessures qui ont malheureusement mené à son décès. Parmi les 4 occupants qui prenaient place dans le second véhicule, 2 personnes ont été blessées légèrement seulement. Aurélie Gaydon de la Sûreté du Québec.
Pour l'instant, on parle d'une intervention qui est toujours en cours, donc sur la 20 à Drummondville, près du kilomètre 175, il y a une voie qui est retranchée de la circulation, donc une voie en direction ouest où la circulation est déviée momentanément, le temps de permettre aux gens de finir l'intervention sur place.
Tu en parlais, Robert, avec Jonathan Bernard il y a quelques instants, 6 mois après la date limite d'inscription des armes d'épaule au registre québécois. Des détenteurs attendent toujours confirmation. Cogeco Nouvelle a appris que le traitement des demandes d'immatriculation s'avère beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus long que prévu. C'est que 77 % des demandes nécessitent l'intervention humaine d'employés du directeur de l'État civil. Ils doivent vérifier des demandes jugées incomplètes, non conformes ou comportant des renseignements incohérents. Les Canadiens qui ont été condamnés pour possession simple de marijuana auront droit gratuitement à un pardon. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a annoncé l'entrée en vigueur de la loi à Montréal aujourd'hui.
Ce pardon les aidera à obtenir un emploi, à suivre des études, à voyager et à participer activement dans leur collectivité.
Il s'agissait d'une promesse électorale des libéraux accompagnant la légalisation du cannabis mise en place en octobre dernier.
Ça, puis j'ai un questionnement là-dessus. Bon, c'est pour possession simple.
Oui, exact.
Bon, la possession simple, elle est évaluée à combien? Est-ce que c'est 30 grammes? Parce qu'actuellement, là, la possession, tu as le droit de te balader, je pense, avec 30 grammes dans tes poches.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que la possession simple, ce sera 30 grammes? Parce qu'à une certaine époque, au-delà d'un an, quand tu avais 30 grammes dans tes poches, tu pouvais être un pocheur, là. Tu pouvais approvisionner ton
D'après moi, il
n'y
avait pas
voisinage.
De quantité. D'après moi, à partir du moment où tu en avais sur toi, là, d'après moi, il y avait un problème avant que le cannabis soit légalisé.
Oui, mais il y avait la possession simple à l'époque, okay. Puis il y avait la possession pour fin de trafic.
La possession pour fin de trafic, quand tu en as pour en revendre.
Bon, alors, c'est ça. Le pardon à 20 élections, ça donne bien toujours. Hein,
ouais, mais c'était une promesse électorale de la dernière élection.
Oui, oui.
Mais en légalisant le cannabis, il n'y avait comme pas le choix de faire cette promesse. Là, ça allait de soi, là, Robert.
Oui, mais la loi, quand la loi est là, la loi que tu transgresses quand elle est là, force de loi, c'est tout de même une loi que tu transgresses.
Tu la transgresses, mais quand après ça, aujourd'hui, c'est devenu légal, c'est devenu autorisé. Ouais. Alors, comment tu peux traîner une accusation qui est en lien avec quelque chose qui a été modifié par une nouvelle loi?
Je sais, mais c'est pas rétroactif, ce que je veux dire.
C'est que
normalement, quand une loi force de loi... Tu respectes la loi. Si tu ne respectes pas la loi à ce moment-là, tu es un délinquant passible d'être traduit devant le tribunal. Mais bon,
je comprends que c'est une question de cohérence. Là, moi, par rapport à la légalisation du cannabis, là, ils ont voulu être cohérents. Si aujourd'hui, on a le droit de se promener en possédant 30 grammes, ben, la possession simple correspondait probablement à quelque chose de similaire.
Non, mais je vous donne l'exemple, mettons, d'une loi fiscale.
Oui. Okay?
Bon, une loi fiscale, on sait que les gouvernements, à chaque budget, vont transformer les règles fiscales, OK? Des fois, vont les adoucir, des fois, vont donner des congés d'impôts, etc., etc. Bon, deux ans, trois ans auparavant, qui a, on va parler de frauder, a pris des raccourcis au plan fiscal, qui, à l'époque, n'étaient pas légaux, puis aujourd'hui sont légaux, est-ce qu'on applique rétroactivement la loi? Je pense pas, moi. Je pense qu'on va le cotiser pareil. Juste pour dire que je trouve ça toujours un peu bizarre. Mais ça donne bien. Il y a des élections bientôt. Et on va tirer... On en reparlera dans un petit moment, d'ailleurs, de la campagne des libéraux. Hier, M. Trudeau qui a commencé à montrer les crocs.
Oui, il a commencé, oui, à attaquer. Il était un peu plus d'attaque. Et puis, il a mis vraiment... Il a associé M. Scheer à Doug Ford en Ontario. Donc, oui, pour qu'on le voit comme étant un homme de droite, un homme trop rigide, trop rigoureux, qui est dans les coupures, qui est dans les restrictions. Alors, c'est ce qu'il veut laisser comme image. Il veut associer cette image-là à M. Scheer du Parti conservateur, évidemment.
Oui, c'est vrai qu'il serait assez audacieux pour dire, mettons, le comparer à... Parce que celui qui n'a pas une bonne presse au Québec de ce temps-là, c'est bien Donald Trump.
Oui.
Je ne sais pas s'il pourrait aller jusque-là.
Ben, non, à la limite, ça ne m'étonnerait pas parce que Doug Ford est souvent associé à Donald Trump.
Oui.
Là. Et puis, écoute, quand il était élu, Doug Ford, tout le monde était content. Là. Tout le monde voulait quelqu'un plus à droite. Tout le monde voulait quelqu'un, puis ça n'a pas été long. Lui, ça a pas son heure de gloire n'a pas resté là longtemps. Là. Lui, là, vraiment, là, il est en chute libre avec son parti là, en Ontario actuellement. Alors, ça n'a pas fait l'affaire des Ontariens.
Ailleurs dans l'actualité.
Oui, en terminant, Robert, on revient sur ce drame sur la rive sud de Montréal. Un bébé de 4 mois est mort écrasé hier soir par une automobile sur le site du cinéparc de Boucherville. L'événement s'est déroulé alors que les parents de la fillette s'affairaient à ranger leur chaise dans la voiture après une projection. Le bébé était dans une petite tente pour la plage et le conducteur, stationné juste à côté, a reculé son véhicule et a roulé sur le poupon. L'agente Mélanie Mercil est de la police de Longueuil.
Il n'y a aucune arrestation dans le dossier, puis tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident. Alors, pour le moment, rien de criminel dans cet événement. C'est un accident malheureux.
Le conducteur, les parents et les policiers qui ont répondu à l'appel ont été traités pour des chocs nerveux.
T'imagines, puis je comprends ça, je ne sais pas comment moi je réagirais. C'est probablement que je suis de l'adrénaline, tu portes secours et tu essaies de faire ce que tu peux là, pour sauver le bébé.
Oh mon Dieu, mais c'est
bébé,
épouvantable, mais... tant pour les parents que ouais, la personne, le chauffeur là, qui... Oh, c'est moi, là, on ose.
Puis tu t'en veux.
C'est épouvantable.
Mettons celui qui a pris le bébé, qui l'a mis dans la tente, là, ou sous la tente. Le dernier qui a touché le bébé, là, comment il va faire pour vivre avec ça pour les prochains mois? T'sais?
T'sais, et la personne là, qui l'a écrasé,
aussi,
Robert,
la même
comment
affaire
tu
aussi.
Fais pour vivre avec
ouais,
ça?
Ouais.
Comment tu fais pour vivre avec ça?
Oh là là.
C'est épouvantable.
Mais on se retrouve tout à l'heure, Joe?
Ben oui.
Oui, avec grand plaisir. Tu viens quand tu veux. Hein.
Ah oui?
Quand
bon, ben,
tu veux, quand
merci.
Tu veux. Tu fais comme Félix, d'ailleurs. Félix est toujours là, là. Et tu fais comme Félix.
C'est
tu
le veux, beau tu veux Félix rester. Et le beau Marc-Antoine.
Ils sont beaux, hein? C'est la jeunesse.
Ils sont beaux, sont fins, ils sont bons.
On va s'entendre sur autre chose. J'ai pas tellement le choix de rester ici tout le temps. C'est moi qui m'en ont.
Je tiens à rappeler que Julie, la première chose qu'elle a dit en te voyant, c'est qu'elle t'a rappelé ton poids.
Ah non, non, c'est ce que... C'est ce
elle dit que je suis beau pour
non,
se rappeler, en
non,
fait.
Bon, pour
se rattraper.
Non, non, c'est que j'écoutais Robert en m'en venant, puis... non, en fait, c'est ce matin que je vous écoutais avec Serge Allary.
Oui, c'est Serge Allary qui m'a
Serge
fait...
Serge disait que tu étais un grand garçon, mais que finalement, tu pesais 235 livres, mais que tu n'avais pas l'air de... Parce que comme tu étais très grand, que tu avais une taille silhouette, alors une silhouette là, qui était tout à fait correcte, normale, d'un
c'est
beau jeune
réparti,
homme.
C'est bien réparti.
C'est ça. Mais jamais, c'est parce que le 235 m'a frappé parce que tu n'as pas l'air de ça, Félix.
Tu n'as pas l'air d'un 235.
Moi aussi, ça m'a frappé quand j'ai vu ça sur la balance.
Mais c'est-tu assez facile?
Il
n'est
pas là, mais Félix est grand, 6 pieds 4. Comment ouais, tu mesures, Félix?
Je mesure 6 pieds 3.
6 pieds 3.
Ouais. Puis il y a 23 ans.
C'est ça. Puis tu es un beau jeune homme.
Mais
oui.
Tu ton genre?
Hein? Ben, c'est un beau jeune homme, il est gentil, il est intelligent. C'est déjà beaucoup, hein?
C'est vrai.
C'est déjà beaucoup. Moi, je suis trop vieille, beaucoup. Alors, genre, pas genre, là, je suis un peu trop vieille pour lui. Pas mal trop vieille pour lui.
Ouais. Ben non, mais ça se peut, des couples où
non, là, l'écart,
la
non,
femme...
Non, non, là, l'écart
est trop
grand.
Ça, c'est drôle, il faudra en parler à un moment donné.
Oui.
C'est quoi l'écart qui est acceptable entre un gars et une fille?
Ben ça dépasse. Si l'homme est l'aîné, puis un écart acceptable, là, Robert, tout est relatif, mais disons que l'écart peut être plus grand quand l'homme est plus âgé que la femme que ce qu'on voit dans les cas inverses.
Pourquoi? Alors, hein?
On voit des femmes plus âgées, des fois, dans
oui,
des couples.
On appelle les cougars.
D'après moi, quand elles ont... 10-15 ans de plus que le conjoint, le jeune homme, je pense que c'est correct, mais des femmes, on en voit qu'elles ont 30 ans de moins que les conjoints.
C'est drôle, mais moi, j'ai tout le temps eu pour m'en dire que
on voit ça des fois.
Le sentiment amoureux n'attend pas le cumul des années. Je me suis tout le temps dit ça. Tu sais, l'amour, c'est l'amour. Tu sais, et puis...
Ouais, mais moi, je pense, Robert, que ça finit toujours par nous rattraper, là, parce qu'à un moment donné, la capacité physique, quand un des deux conjoints atteint 70, 75 ans, si l'autre est encore dans la quarantaine, viens pas me dire qu'il n'y a pas de différence dans la capacité. Alors,
non, mais si l'amour est là, probablement que tes capacités diminuent.
Oui, tu as raison que c'est, l'amour est basé sur la complicité.
C'est pas culturel, cette affaire-là, tu sais, de dire, bon, à partir d'une différence de 10 ans, ça commence à être indécent. 10, 15, 20 ans, ça n'a plus d'allure.
Moi, je me dis que c'est indécent. C'est très personnel. Ça regarde les gens. Mais je dis juste que l'écart qu'on constate quand l'homme est plus âgé, l'écart est plus grand que l'inverse.
Ouais.
On voit des femmes plus âgées, mais l'écart avec le conjoint est moins grand que ce qu'on voit, à l'occasion avec des jeunes femmes. Là, qui sont avec des hommes d'âge mûr, des hommes d'âge... Alors,
c'est un bon sujet, ça.
Oui,
c'est
effectivement. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire, là, Robert.
Êtes-vous avec un conjoint plus âgé, une conjointe plus jeune ou plus âgée? 376-1069, partagez votre expérience.
Oui, effectivement.
Ça fait plaisir de vous écouter.
Tu sais, c'est la complicité dans le couple qui est la plus importante. Hein? Quand on vieillit, c'est ce qui reste de plus important, selon moi. Alors.
Il y a une certaine Natacha qui m'écrit. Elle dit, « Moi, j'ai 13 ans de différence avec mon chum et je suis très heureuse. »
Elle a 13 ans de plus ou de moins?
De plus.
Ben, c'est ce que je disais. Je disais une quinzaine d'années. Alors, c'est ce que je disais. On voit ça. Mais on ne verra pas 30 ans comme on le voit quand c'est l'homme et une jeune femme.
Des fois aussi, on va être... Il y en a qui sont malveillants, moi, de côté, des langues sales qui vont dire, « Ah, ben c'est sûr. » Elle est là ou il est là pour l'argent. Parce qu'elle a de l'argent, puis là, il colle ou elle colle à cause de ça. Et c'est la première idée qu'on a. Alors qu'on ne va jamais vers les sentiments. Parce que
faut vivre et laisser vivre. Hein, Robert, moi, je dis tout le temps qu'on n'est pas là pour juger de la raison pourquoi les gens sont ensemble. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment ou est-ce qu'ils ne s'aiment pas? Là, je pense qu'on est tous des gérants d'estrade dans ces affaires-là et qu'on est malhabile de prendre, de faire ces observations-là sans connaître les gens. Puis ça ne nous regarde pas. C'est privé.
Moi, je peux vous le dire.
C'est privé, puis c'est correct comme ça.
Moi, je peux vous le dire, là, je sors avec une plus vieille que moi. Ça fait bien mon affaire.
Alors, Daniel est une cougar.
Ben, plus ou moins. Pas une grosse cougar, là.
Oh,
un petit chaton, je te dirais. Hein, mon minou? OK. On va parler météo maintenant.
La météo, présentée par le Festival des gourmands d'asbestos, commandité par ABS Remorque du 15 au 18 août. Achetez votre bracelet et consultez la programmation à festivaldesgourmands.qc.ca.
Il va faire beau. Aujourd'hui, demain, samedi, il y a peut-être des épisodes de pluie à prévoir. Dimanche, soleil pour lundi et pour le milieu de la semaine prochaine, on prévoit des averses. On a au centre-ville de Trois-Rivières, alors qu'on devrait atteindre 26 degrés, on a à midi 14 minutes 22 degrés.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Alors voilà, Julie qui est avec nous autres pour commenter l'actualité. Peux-tu commencer avec un sondage interne au Parti conservateur obtenu par un collègue et qui a fait l'objet d'une entrevue avec l'ami Serge Jolary ce matin, plutôt sur nos ondes. Je ne sais pas si tu l'as entendu, si tu as vu les résultats du sondage en question. Sinon, je vais te les donner, puis tu pourras commenter. Alors, le sondage en question...
C'est un sondage juste pour le Québec, là, pour préciser.
Ben, on est dans Berthier-Masquinongé.
Okay, juste dans Berthier-Masquinongé, oui, puis Ruth Hélène. OK, parfait.
Bon, alors, parce que Ruth Hélène Brochot, il y en a plusieurs qui ont dit, puis je pense que c'est François Vigeant qui a même mis, il a mis tout le monde au défi de dire que s'il n'était pas réélu, je pense qu'il s'expatriait dans une cabane en bois rond pendant un mois ou deux.
Ça va devenir dangereux pour François, je pense.
Bon, oui, il va falloir qu'il revoie peut-être un peu sa stratégie. Alors donc, je vous donne les résultats en question. C'est un sondage du Parti conservateur qui donnerait vainqueur le Parti libéral dans Masquinongé avec 30 % des votes, s'il y avait eu des élections hier, 27 % pour le Parti conservateur, 22 % pour le Bloc québécois, le NPD est à 9 % le Parti vert est à 5 % et Maxime Bernier est à 4 %. Surprise?
Ben, en fait, là, c'est les partis que tu identifies. Si on avait fait des sondages en fonction avec les noms de
candidats. Les individus.
Avec les individus, je pense que Ruth Hélène, peut-être pas les autres parce que je pense qu'ils sont pas nécessairement très connus, mais Ruth Hélène aurait réussi à se hisser, je pense, à avoir un plus haut pourcentage. Là. Écoutez, le sondage là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est comme une photographie, le moment présent. Qu'est-ce que ça donne? Quelle est l'intention de vote des gens aujourd'hui à 10h le matin? Alors, c'est comme si on prenait une photographie de la volonté des gens ou de leur... en fait, comment ils voudraient voter là,
oui,
là
oui,
aujourd'hui?
Leur intention.
Leur intention. Maintenant, Robert, c'est toujours dangereux parce qu'on a vu plein de campagnes électorales où on donnait au départ un tel gagnant, puis en bout de ligne, c'était pas ça du tout.
C'est encore loin.
C'est loin. En politique, ça change très rapidement. Alors, on dit que 6 mois, c'est là en politique. Là, il en reste 2-3 mois avant les élections. Mais encore là,
il nous reste
suffit...
août, septembre, octobre. Ouais, on est à 3 mois.
Alors, mais il suffit d'une erreur d'un chef, il suffit d'une mauvaise déclaration, il suffit d'un paquet de petites choses et ça vire de bord très rapidement. Par contre, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est une tendance. Alors là, le sondage, on ne le prend pas au pied à la lettre. Là, on ne le prend pas là, comme étant sacré puis étant la finalité. Mais en même temps, ça donne une tendance. Alors, c'est quoi le profil des Québécois? On s'en va vers quoi? Et ça donne une tendance. Et ça, cette tendance-là, souvent, elle influence les gens. Alors, elle influence les gens qui disent « Bon, ben là, les Québécois s'en vont vers ça. » ou Puis souvent, ça peut influencer une portion de l'électorat.
Monsieur Singh, le chef du oui. NPD, je pense, est un peu à l'origine des résultats que l'on voit pour le NPD partout au Canada.
C'est
parce
clair.
Que c'est, ce qu'on voit là dans Berthier-Masquinongé, puis pour Ruth Hélène Brosseau, autour de, bon, j'ai parlé de 9 % tantôt, 8-9 %
Ah, mais son nom n'était pas là, là. On a associé un parti.
Mais un peu partout au Québec, oui. c'est à peu près ça. À l'époque, elle a passé dans une vague, OK? Et là, cette vague-là ne sera pas là. Toi, ce que tu dis, c'est que Ruth Hélène, elle, va aller chercher un capital de sympathie à hauteur, là, c'est toujours ton 10 % traditionnel.
C'est ça. Ruth Hélène va scorer mieux que le NPD.
Okay.
C'est clair. Ruth Hélène, puis M. Aubin à Trois-Rivières également, j'ai cette opinion-là, cet avis-là, qui vont scorer mieux, qui vont avoir un meilleur score que leur parti. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour les faire gagner, Robert? Là est la question. Parce que ça va... Là. Ils sont loin, là. Ils sont loin. Parce qu'on dit souvent qu'un bon candidat, ça joue pour 10 % du vote. Alors, 10 % du vote, mais quand ton chef puis ton parti n'est pas plus haut qu'à 9 % et le 10 % là, il ne te permet pas, même si tu es au-dessus de ton parti, même si tu as un bon score, ça ne te permet peut-être pas de gagner à l'heure actuelle.
Bon, la stratégie, on a parlé tout à l'heure dans le bulletin de nouvelles, la stratégie du chef du Parti libéral, c'est de démoniser les conservateurs.
Oui.
Bon, lui trouver des comparaisons un peu flatteuses. Entre autres, il n'est pas très populaire, Doug Ford, en Ontario, de ce temps-là.
C'est ça.
Donc, lui, il va tenter de faire des accointances.
De les coller
les uns sur les autres. C'est une bonne stratégie, ça?
Ben, je pense que oui, parce que ce qu'il veut démontrer, d'abord, Justin a creusé des déficits année après année, là, puis en disant, moi, j'ai aidé la classe moyenne, j'ai aidé les familles, j'ai aidé... Bon, alors, il essaie de se mettre un peu plus à gauche et de définir les conservateurs comme étant des gens de droite, des conservateurs purs et durs qui sont là pour faire des coupures, des restrictions,
des lois.
Alors, il veut vraiment leur afficher cette image-là, que les gens les identifient comme étant des gens qui vont arriver là puis qui vont couper plein de services. Ils vont couper du personnel, ils vont couper des services. Alors, les conservateurs, dans l'histoire du Canada, ont toujours été des gestionnaires un peu plus rigoureux que les libéraux. Les libéraux faisaient des déficits, les conservateurs arrivaient au pouvoir puis redressaient l'état des finances publiques. Mais quand tu fais ça, redresser l'état des finances publiques, assurément que tu gères de façon un peu plus rigoureuse.
Mario, au téléphone à 376-1069. Bonjour, Mario.
Oui, bonjour. Bon dîner.
Bonjour,
bon dîner.
Bonjour.
Bon appétit. On vous écoute.
Moi, en tant que électeur, je crois que la plupart du monde, et puis je parle pas juste pour moi, je parle pour beaucoup de gens qu'on a sur les réseaux sociaux, peu importe, je pense que le monde ne croit plus au gouvernement, puis depuis un certain temps, mais là, plus ça va, moins le monde y croit, puis comment qu'on essaierait de dire que, comme dire que, ah, ben, tel pourcentage arrive, tout ça, là, c'est oui, pour ma part, c'est pas vrai. C'est pas vrai là, qu'eux autres, ils vont remporter et toute la quitte, là, parce que le monde ne croit plus à eux autres. C'est tout simple que ça. faut pas se le cacher, là, depuis quelques années, là, ça va de mal en pire. Ouais. Fait que,
vous parlez de cynisme fort,
probablement.
Les gens sont
blasés. Oui, les gens sont blasés, hein, Mario?
Oui. On se le cachera pas, là. Quelqu'un un peu les choses dans le Facebook ou peu importe, là. Puis le monde a hâte qu'un Trudeau parte. Parce que je pense qu'il en a fait déjà pas mal, là. Puis je dirais pas tout quoi, mais en tout cas, mettons que notre argent qui sort des poches, elle s'en va à des places que c'est pas ça d'y aller, mais peu importe. Mais le monde, ils veulent plus l'avoir, c'est pas compliqué. Ils font plein de messages puis plein de choses négatives, puis ils ont raison. Ils ont raison parce qu'on est tanné de payer pour les autres. Fait que c'est sûr que le monde ne croit plus pas en tout à...
Mais c'est quoi la solution? Mario, c'est quoi la solution de rechange? On a beau plus croire, là, mais c'est le solution. Système. Hein?
Non. La solution, il faudrait qu'on ait des gouvernements qui soient assez lucides pour voir comment qu'on est. Puis il faudrait qu'ils arrêtent de nous fouiller dans nos poches puis mettre ça de gauche à droite.
Oui, mais vous êtes le premier à réclamer des services. Vous êtes le premier à chialer quand vous attendez à l'urgence. Vous êtes le premier à dire qu'il y a des nids de poules puis que ça scrape vos voitures. Non, mais c'est parce qu'il faut être cohérent
Oui, c'est vrai. Mais qu'ils mettent l'argent en bonne place. Oui, quelqu'un qui met de l'argent dans les autres pays, tout le kit, puis que nous autres, là, mettons, des itinérants puis qui ne s'occupent pas de ça puis qui s'occupent de d'autres qui viennent des autres pays. Là, gars, m'excuse, là, mais on va commencer par penser à nous autres. Puis les autres, ben on verra ça. Mais là, c'est le contraire. Là, parce que là, plus ça va, le monde est en beau joie le vert parce que là, ils s'occupent plus du monde en dehors que nous autres. Et c'est pas juste des histoires de nid de poule. Là, je te parle de l'argent qu'ils prennent dans mes poches à moi, que je travaille 40 puis 50 heures par semaine, puis qui va donner ça à du monde qui ont même pas d'affaires ici. Gars, je m'excuse, là, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pas compliqué, là.
Hey Mario, je pense que bien des auditeurs qui vont être d'accord avec vous là, quand on envoie de l'argent à l'étranger, les gens disent ben il y a beaucoup de misère ici, il y a beaucoup de pauvre monde, il y a des gens qui mangent pas. Comment se fait-il qu'on commence pas par aider les nôtres avant d'envoyer ça à l'étranger? Là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vous suivent, mais c'est tout n'est pas noir ou blanc là. Je pense que les gouvernements mettent beaucoup d'argent dans les services à la population. On vit dans un pays, on est choyé.
L'argent va là.
Tu sais, Robert, tout le monde nous envie, là, au Canada, puis que ce soit au Québec, on a des services extraordinaires.
Cette semaine, il parlait avec les déficits envers les hôpitaux, puis le kit, là. Ils savent qu'ils sont dans le déficit. Mais pourquoi qu'ils arrangent pas ça? Non. Ils prennent l'argent, puis ils mettent ça ailleurs. Tout le temps ailleurs, tout le temps, puis nous autres, ben, on passe les derniers. Puis après ça, vous demandez, comment ça que le monde chiale, parce que telle affaire, on l'a pas. Mais, mal. Ils prennent notre argent quand on travaille. Puis il s'en va donner ça ailleurs.
Mais c'est pas une grosse proportion, Mario. Ce qu'il envoie à l'étranger, c'est pas une grosse proportion du budget du gouvernement fédéral. Là,
on n'est pas au courant. Moi, c'est très marginal. Il y a beaucoup de choses cachées.
OK.
C'est clair. Là.
Merci, Mario, d'avoir téléphoné.
Merci beaucoup de votre opinion.
Merci. Oui, c'est ça. Puis, opinion, quelquefois, ça rime avec perception. C'est peut-être la perception qu'on a, qu'on gaspille l'argent des contribuables. Pas trop sûr de ça. Tu sais, comme on dit, principalement, l'argent va en santé au Québec, en éducation.
La moitié du budget est en santé au Québec, puis après ça, c'est l'éducation, les deux principaux postes.
Puis après ça, ben on vous donne d'autres services, et puis on vous fait des belles routes, puis des beaux ponts, puis on vous construit des amphithéâtres, puis bon, etc., etc. Au Québec, actuellement, là, si vous voulez être soigné, là, c'est assez simple, c'est assez facile.
Ah, puis encore, on a des problèmes encore, Robert, avec les personnes qui vivent de plus en plus vieilles, qui coûtent... Il y a eu beaucoup de problèmes de santé qui sont associés à cette vieillesse-là qu'on n'avait pas avant. Ouais. Alors, il y a des coûts de société à ça. Mais quand ça nous frappe, quand c'est notre mère, notre grand-mère ou quand c'est nous, on veut bien que les services soient là. Alors, il y a un coût à tout ça.
On va faire une courte pause. D'autres sujets abordés. Tu as été un jour, toi, dans ta vie pharmacienne.
Oui.
Tu as même été propriétaire d'une pharmacie. Oui. Il paraît que Donald trouve que nos médicaments sont trippants.
Ben, c'est parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'aux États-Unis.
Il voudrait s'approvisionner en médicaments canadiens.
Il aimerait ça, on va en parler
après la pause.
Le Québec, maintenant.
Et en faisant du...
Jusqu'à 14h, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus. Voici Robert Pilote.
Bonjour et bienvenue. Pour ceux, vous arrivez, merci de venir nous rejoindre. Midi Plus, c'est l'équipe habituelle qui sera avec vous autres de plus en plus parce que la saison va recommencer de bonne heure. Moi, j'ai décidé de me débarrasser de mes vacances tôt dans la saison.
T'es chanceux, t'as eu du beau temps.
Oui,
Il a fait très, très beau.
Chaud, même.
On va avoir connu un mois de juillet extraordinaire,
écoute,
là, sincèrement.
Tantôt, là, on va avoir des statistiques pour le mois de juillet. Je pense qu'on bat des records.
Ah non, écoute, c'est extraordinaire.
Tu sais, pour surfer sur ce que l'auditeur Mario nous disait, tu sais, les cœurs entiers aigus, les gouvernements ne couraient plus à ça, la maudite argent qui est dépensé à droite et à gauche, gaspillé dans certains cas. Il y a un cas qui nous occupe aujourd'hui dans le conflit chez ABI. Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec, qui a été payé. Engagé par le gouvernement caquiste pour tenter...
C'est engagé par le gouvernement Couillard au début.
Il a été reconfirmé
dans son mandat par le gouvernement caquiste.
Bon, alors l'ancien premier ministre du Québec avait été engagé, tu l'as dit, par Philippe Couillard. Ça, c'est en avril 2018 comme médiateur et employé syndiqué local. Lucien Bouchard a reçu 145 000 $ pour ce mandat qui s'est terminé sans succès en octobre 2018. Par la suite, le gouvernement de François Legault a sollicité les services de Lucien Bouchard comme président d'un conseil de médiation spécial. Et là, c'est une somme de 96 000 qui a été facturée pour son rôle comme membre de ce... Et puis dans les sommes accordées obtenues grâce à la demande d'accès à l'information, note 45 000 $ destinées aux frais de location de salles de déplacement des personnes impliquées. Et ça, c'est sans compter également des frais pour ses déplacements et des frais accessoires, 4 400 $, les hôtels, puis peut-être tout ça.
Ils sont là, c'est lunch.
Le gros chiffre, finalement, 242 000 $. Qu'est-ce que ça a donné?
Ça n'a rien donné.
242 000 $.
Ça, là, Robert, là, c'est des choses là, qui font suer les Québécois. Ce genre de dépenses-là ou de factures ou de... Ça, là, ça me fait penser aux primes qu'on donne aux dirigeants des universités puis chez Hydro-Québec. Ça, là, les gens, les Québécois ont beaucoup de difficultés à penser que ces dépenses-là étaient nécessaires et incontournables.
On veut pas qu'ils fassent du bénévolat.
Non.
Mais ça se peut-tu, parce que ça ne devait pas être le seul mandat qu'il faisait là, dans sa
vie? Ah ben non, là, il ne faisait pas ça à temps plein. Il devait avoir plein d'autres choses en même temps. Puis il a pris ce mandat-là en même temps que ses autres mandats sur d'autres dossiers. Alors, il faisait ça de façon simultanée là, avec d'autres mandats qui lui avaient été confiés par des entreprises privées ou autre chose.
Tu sais, 300-400 $.
Oui.
C'est à peu près ce qu'on dit qu'il facturait, 300-400 $. C'est-tu exagéré? Qui c'est qui décide? Détermine la rémunération au gouvernement? Toi, tu étais au gouvernement, ben, t'engages quelqu'un. Tu dis, bon, moi, j'engage Lucien Bouchard, il vaut combien?
Mais tout est une question, Robert, d'expérience, de compétence. Bon, il y a un prix. Tu sais, quand tu embauches un avocat, là, c'est pas parce que j'en embauche régulièrement, mais il y a des avocats juniors qui vont peut-être te coûter 100-150 $ de l'heure, puis tu en as des seniors qui coûtent 300 puis 400 $ de l'heure parce qu'ils ont l'expérience, ils ont tout sous la notoriété, la crédibilité, ouais. L'expérience. Alors, c'est le cas de Lucien Bouchard. Alors, lui, il arrive avec son bagage d'ancien premier ministre, de gestionnaire, alors avec un avocat. Alors, avec tout ça, ben c'est le prix que ces gens-là chargent pour exécuter ce genre de mandat-là. Alors, dépendamment à qui tu le confies, si la personne a plus d'expérience, évidemment, il faut que tu t'attendes à payer davantage. Et c'est le cas, là. On a tenté de prendre le meilleur, entre guillemets, parce qu'on dit que M. Bouchard est un excellent négociateur. Alors, on a tenté de prendre le meilleur parce qu'on voulait donner la meilleure des chances au conflit de l'ABI de se régler. Mais ça s'est avéré que ça n'a rien donné en bout de ligne. Il a même dit que pour lui, c'était comme... il ne pouvait pas trouver de solution, de piste d'avenue, d'atterrissage. Là. Il n'était pas capable, en fonction de ce qu'il entendait de la part du syndicat et de la part des travailleurs, que selon lui, c'était irréconciliable. Alors,
mais
c'est
ça
ce que ça a donné, le 250 000 $ pour cette conclusion.
Tu peux-tu découvrir ça, mettons, la conclusion à laquelle il en est venu, là? Tu peux-tu le découvrir après 30 000 $ de dépenses, mettons? Ou 5 50 000. T'attends. Non, mais souvent, c'est populaire, les running bills. Oui. Hein? Tu fais virer la facture, virer la facture. Et puis,
plus le temps s'étire, plus ça coûte cher. Ça, on a vu ça dans plein de mandats, Robert. Des mandats qu'on donne pour toutes sortes de choses au gouvernement. Puis, il y a un temps de 6 mois. Puis après 6 mois, les gens ne sont pas prêts. Ils demandent une extension de 6 autres mois. Puis, alors là, ça coûte le double que ce qui était prévu, qui était budgété par le gouvernement. Et ça, c'est plus que fréquent, je te dirais, Robert, plus que fréquent. Et ça choque, ça irrite les Québécois. Moi, je suis convaincue que les Québécois n'aiment pas ce genre de dépenses-là. Ouais,
on l'entendait, ça, Mario, tantôt. Là.
C'était un peu dans ce sens-là, ce que Mario nous disait. C'était pas des sommes d'argent qu'on donne à l'étranger, mais pour Mario, je suis convaincue que c'est une dépense qui n'aurait pas dû être à la hauteur de ce qu'elle est, puis qu'elle a été dépensée, c'est ça.
Je vais t'amener dans ton champ d'expertise maintenant. Le projet de l'administration de Donald Trump d'autoriser les Américains à importer des médicaments d'ordonnance du Canada risque, semble-t-il, d'aggraver les pénuries de certains produits pharmaceutiques au Canada. C'est ce qu'estiment des acteurs du milieu de la santé. Et avant d'aller plus loin avec tes observations, parce que tu connais ça, tu as été pharmacienne, tu es encore pharmacienne, mais tu n'as pas refait tes cours, hein? Tu n'as pas ta licence. Il faudrait que tu retournes à l'école.
Oui.
Tu te tentes plus ou moins. Hein? Patrick Boudreau est avec nous autres. Il est aux affaires externes l'Association des pharmaciens, l'Ordre des pharmaciens du Québec.
Il y a l'Ordre, puis il y a l'Association des pharmaciens.
Mais je pense que c'est à l'Ordre, Patrick. Il prend 2 minutes de son heure de lunch pour venir nous dire de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'on doit craindre pour la disponibilité de notre épipène? Bonjour, Patrick.
Oui, bon midi. Bonjour, je suis à l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonjour.
Alors, bonjour, OK, Patrick. Bon, parfait. Merci de mettre les choses en ordre. Dites-moi, qu'est-ce que c'est, pour bien comprendre et saisir le projet du gouvernement américain?
Bien, écoutez, il faut comprendre, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de l'approvisionnement en médicaments, il faut être vigilant. Et encore plus lorsqu'on a un joueur aussi important que nos voisins américains, lorsqu'ils font une déclaration comme ça, il faut quand même regarder aux conséquences qu'il pourrait y avoir. La première chose que j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que le gouvernement américain permet l'importation du Canada de médicaments qu'il est permis aux grossistes canadiens, aux fabricants canadiens d'exporter les médicaments du Canada vers les États-Unis. Il faut comprendre que la plupart des médicaments que vos auditeurs prennent tous les jours, ces médicaments-là ont été pour la très grande majorité fabriqués ailleurs qu'au Canada, soit dans des usines aux États-Unis, en Europe, en Asie. Ces médicaments-là sont importés par les filiales canadiennes de Pfizer, de Novartis ou des autres compagnies pharmaceutiques. Les médicaments arrivent ici au Canada, ensuite ils sont distribués chez des grossistes pour être ensuite envoyé vers les pharmacies, Jean Coutu, Family Prix ou Pharmaprix, qui est près de chacun des auditeurs. Alors, c'est cette chaîne-là qui fait en sorte que tout un chacun ici au Canada, on a des médicaments. Alors, ces médicaments-là qui sont importés de l'étranger, souvent par contrat, les filiales canadiennes avec les grossistes disent, ça, ce stock-là, c'est pour le marché canadien et vous ne pouvez pas les importer, les exporter vers les États-Unis. Alors, il y a quand même une certaine barrière, ou du moins, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi demain matin, là.
J'ai un peu du zèle. Juste une précision, Julie, puis tu poseras ta question après. Là.
Okay.
Mais juste ici, là, vous dites que des médicaments fabriqués aux États-Unis transitent vers le Canada pour le marché canadien. Okay?
Exact.
Mais le projet de Donald Trump, est-ce que ce serait d'empêcher les médicaments de quitter les États-Unis?
Non, il veut acheter.
Hein,
il veut les acheter au Canada.
Je comprends pas pourquoi ils ne sont pas un intermédiaire et ils ne s'approvisionnent pas tout de suite chez les grandes pharmaceutiques américaines.
Parce qu'ils n'ont pas de réglementation sur les prix aux États-Unis. Alors, les gouvernements n'ont pas réglementé, n'ont pas fixé des prix. Donc, les médicaments sont beaucoup plus chers.
C'est exactement ça, vous avez raison. Alors, il n'y a pas de réglementation des prix. Cependant, au Canada, nous avons un conseil d'examen des prix qui fait en sorte que on s'assure que les prix des médicaments au Canada sont dans une fourchette qui, ou du moins dans une envergure de prix qui sont qui est comparable avec d'autres juridictions, par exemple le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse. Et lorsqu'on regarde, bien entendu, ce joueur américain-là qui n'a pas de contrôle, qui n'a pas de contrôle de prix, la marge peut nous sembler, pour certains médicaments, importante. Cependant, lorsque l'on se compare, nous, le Canada, avec une dizaine de pays d'Occident, nous sommes dans une marge qui est sensible, qui est à peu près la même. Donc, face à cela, est-ce que le Canada, est-ce que les compagnies pharmaceutiques cesseraient d'en vendre au Royaume-Uni, au Canada ou à tous ceux qui ont cette envergure de prix-là? Je ne croirais pas, mais il faut demeurer vigilant par ailleurs.
Est-ce que ça peut créer, parce que là, on va parler au nom des gens qui les consomment, les médicaments en question, créer éventuellement des pénuries?
Bien, vous savez, malheureusement pour les pharmaciens, heureusement pour les patients, les pharmaciens sont passés maîtres dans la gestion des ruptures d'approvisionnement. C'est quelque chose dont ils font face quotidiennement. Ça met à mal un peu là, leur travail au quotidien. Ils passent beaucoup de temps là-dedans. Je les salue et les remercie pour tout le travail qu'ils font. Alors, les pénuries, c'est quelque chose dont l'ordre et les différents gouvernements sont à l'affût. Bien entendu, un médicament, plus le médicament est important, plus il doit être disponible. Il doit être disponible en quantité suffisante pour venir combler les besoins de l'ensemble de la population. C'est sûr que le volet des ruptures, le volet des quantités qui seront importées, qui seront disponibles pour les patients, c'est un élément dont on devra avoir une grande vigilance. Ça, c'est clair. Puis, vous pourrez compter sur l'ordre et d'autres partenaires pour le faire.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Patrick, c'est évidemment le marché américain, c'est 10 fois plus de population que le Canada. Alors, si les États-Unis se mettaient à acheter au Canada des produits, des médicaments, évidemment qu'on peut craindre là pour une pénurie là ou évidemment l'approvisionnement de nos produits. Est-ce que et j'ai compris tout à l'heure l'explication que tu as donnée, Patrick, mais est-ce que le gouvernement du Canada devra faire plus, imposer ou empêcher les compagnies de vendre aux États-Unis? Est-ce que le gouvernement du Canada devra franchir un pas de plus pour sécuriser l'approvisionnement et l'offre des médicaments sur le territoire canadien pour éviter que les Canadiens en soient privés au bénéfice des Américains? Est-ce que le gouvernement du Canada devra faire quelque chose, devra poser un geste plus significatif pour empêcher ces compagnies-là de faire affaire avec les États-Unis?
C'est très intéressant comme question parce que tout à l'heure, je vous expliquais que les médicaments qui étaient importés ici au Canada étaient ensuite revendus vers les grossistes canadiens avec des mesures dans leur contrat, donc des mesures contractuelles qui les empêchent de les exporter vers les États-Unis. On s'entend que entre une loi ou un règlement versus une entente contractuelle, il y a un élément qui est beaucoup plus fort, qui est la loi. Alors, bien entendu, on va devoir demeurer vigilant. Santé Canada devra demeurer vigilant sur la mesure qui est prise par les Américains pour s'assurer que si les ententes contractuelles ne sont pas suffisantes et ne protègent pas suffisamment la population canadienne, il faudra aller avec des mesures beaucoup plus musclées, dont une législation ou une réglementation qui sera en ce sens. Par ailleurs, l'Ordre des pharmaciens du Québec a travaillé sur différentes mesures, une dizaine de mesures qui permettraient justement de sécuriser et le stock de médicaments et les besoins des patients canadiens en 2011-2012. Il y a certaines recommandations qui ont été mises de l'avant depuis le temps, mais bien entendu, il en reste encore à faire. Mais pour répondre à votre question, entre une entente contractuelle et une loi ou un règlement, c'est clair que le volet réglementaire ou le volet législatif est plus musclé. Ça pourrait être utile, dépendamment de l'évolution de la situation.
Okay.
Merci beaucoup.
Merci.
Mais, toujours se dire aussi et se rappeler qu'au Canada, on est dépendant de ces molécules qui nous viennent plus souvent qu'autrement de d'autres pays, d'Asie entre autres. On n'est pas autosuffisant, on est loin d'être autosuffisant, là.
Bien, on est loin d'être autosuffisant et souvent, c'est peut-être pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais même une compagnie, parfois, elle ne contrôle pas non plus la fabrication de la matière première, hein, la poudre de médicaments ou la molécule pour pouvoir faire le comprimé ou pouvoir faire la solution qu'on va injecter. Alors, par exemple, la compagnie peut peut-être faire la fiole de médicaments stériles qui va dans l'hôpital permettre d'être injecté au patient, mais peut-être que cette molécule chimique-là, elle va avoir été fabriquée par une autre usine ailleurs, dans un autre pays. Et si cette molécule de cette matière première-là est en rupture ou a des problèmes, ben, il faut comprendre que même la chaîne de fabrication en aval, là, la compagnie pharmaceutique, va avoir des problèmes pour le faire.
C'est clair.
C'est assez complexe.
Alors
même si on remonte à l'industrie, à la compagnie pharmaceutique, il faut penser qu'elle-même a des joueurs dans sa propre chaîne de fabrication.
Merci beaucoup.
Vous avez tout à fait raison.
Alors, il faut être vigilant. Il faut demeurer vigilant à cet égard-là.
Il faut demeurer vigilant, puis il faut s'assurer que nos patients canadiens, québécois soient bien servis, qu'il y ait une bonne distribution des médicaments, mais aussi une bonne surveillance par les pharmaciens.
Merci, M. Boudreau.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Aux affaires externes, à l'Ordre des pharmaciens, Patrick Boudreau. Et moi, ce que j'entendais dans tout ce débat-là hier, puis ce qui m'inquiète le plus, c'est que les molécules, tu sais, c'est pas nous, c'est la Chine, puis je me demande, c'est pas le Pakistan, en tout cas un pays très populeux, l'Inde. Je pense que l'Inde et la Chine qui fournissent principalement l'ensemble des molécules nécessaires pour fabriquer les médicaments contre le cancer ou autres médicaments. On est loin d'être autosuffisants de ce côté-là.
Mais ce qui explique, c'est qu'il y a des ententes avec les compagnies pharmaceutiques au Canada, puis ces médicaments-là ne peuvent pas être revendus aux États-Unis. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, Medicare, qui est comme un peu l'assurance maladie au Québec, Medicare, elle ne peut pas négocier des prix avec les pharmaceutiques aux États-Unis. Et souvent, il y a des brevets qui protègent les médicaments là-bas, ce qui fait que tant et aussi longtemps qu'un brevet est en fonction, bien, le médicament, il se vend avec des prix astronomiques. Là. Il se vend le plus cher possible, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas copié par un générique. Alors, à ce moment-là, les médicaments demeurent très élevés. Écoute, Robert, on parle d'une fiole là, pour le diabète. Là.
Oui.
Alors, une fiole d'insuline, c'est 10 fois plus cher aux États-Unis que ça ne l'est au Canada. Alors, on comprend là, que M. Trump, il voit là une avenue intéressante à explorer, de venir acheter. Alors qu'au contraire, il devrait passer une loi au Sénat puis dire on va s'asseoir avec les pharmaceutiques et on va mettre des prix plafonds. On va les obliger à plafonner leurs prix, puis on va dire le gouvernement, l'État ne paiera pas plus que ça avec tous les patients et tous les achats de médicaments qui sont liés avec le Medicare, là, avec leur système de santé.
Une courte pause, c'est le moment de s'arrêter. Vous avez des choses à nous dire, 376-1069. Il y a un jeune homme dont je suis très, très fier dans la région, à qui j'ai parlé, Samuel Girard. Qui a gagné son gros lot à lui. T'sais, il a joué avec les Cataractes de Shawinigan. Et tu as sûrement probablement vu ce gars-là jouer sur la surface glacée à Shawinigan. Il a touché le gros lot hier. Combien? 35, Félix? Combien il a touché?
C'est 35 millions.
C'est un contrat
pour 5
ans. 7 ans, 35 millions.
Okay, c'est ça,
okay. 7 ans, 35 millions. Si tu veux qu'on complète notre heure ensemble dans le plaisir puis dans le bonheur, on va parler au papa.
Ah, ça va me faire plaisir.
Hein? C'est
ça
le fun de le saluer un peu.
Oui, tout à fait.
Le père qui est fier de ce gars-là, il a été supporté par sa famille. Tu sais qu'on fait des sacrifices, hein? Ils ont dû choisir entre les deux garçons. Te souviens-tu de cette histoire-là? Je pense qu'il y a un frère, lui, puis le frère était talentueux également, mais à un moment donné, il ne pouvait pas payer le sport, de haut niveau.
De haut niveau, le
à
sport
toute
élite.
La famille. Fait qu'ils ont, le frère s'est sacrifié, puis le père, ils ont dit, bon, finalement, on va miser sur Samuel. Et puis Samuel a gagné le gros lot. On parle au père après la pause.
Amateurs de sensations. 20h30, bonsoir les sportifs. Participez aux tribunes téléphoniques en répondant aux questions du jour. Bonsoir les sportifs, en semaine, 20h30. 106.9, Mauricie. Attendez-vous à plus. Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote.
Avec Julie Boulay, c'est Julie aujourd'hui qui vient commenter l'actualité. Julie, tu as des enfants. Et puis, tu sais, nos enfants, on est fiers hein, de nos enfants, puis de ce qu'ils font dans la vie. Et puis, tu sais, nos enfants, on va les inscrire dans des sports, dans des activités. On va les acheter un beau violon.
On leur permet de se développer. Écoute, faut savoir le talent, la volonté, le goût, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Puis après ça, on y va avec ça. Ça, c'est la base. Faut qu'ils aient le goût.
Ouais.
Puis après ça, je me dis...
Il y a des parents qui regardent Céline Dion, puis il me semble que ma fille, elle sera aussi bonne que Céline. Puis là, il y en a qui regardent,
On peut rêver, on peut espérer, mais ça arrive, Robert.
Ça arrive. Puis c'est l'exemple de Samuel Girard que tu as vu jouer au hockey avec les Cataractes de Shawinigan. Okay? Samuel a eu un parcours exceptionnel dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça nous a donné un beau trophée du côté de Shawinigan. Il a poursuivi sa route dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, tu sais, hier, il a signé un contrat qui l'établit comme un joueur marquant de son époque dans la Ligue nationale, un joueur marquant du Québec et de la région, bien sûr. Il a signé un contrat autour de entre 30 et 35 millions pour les sept prochaines années.
Alors, ça fait à peu près 5 millions par année.
Oui,
hein?
C'est 7 ans, 35 millions.
C'est ça.
C'est du cash, c'est du bacon.
C'est beaucoup d'argent.
Puis c'est sur 7 ans. Mets-toi à la place du père, de la famille en général, puis du père qui ont travaillé fort. On a déjà parlé à Tony, son père, tu sais, comment ça s'est bâti de sacrifices, que cet exploit-là. Il est notre invité. Tony Girard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Girard, bonjour.
C'est incroyable.
Hey, vous allez me faire pleurer en dépannant, alors arrêtez.
Mais on aime ça quand il y a de l'émotion dans l'air, M. Girard.
Ah oui, c'est correct. C'est correct.
Mais,
c'est de la bonne émotion.
Ouais. Tout à fait.
Mais, tu sais, d'arriver là aujourd'hui...
Quel parcours.
Ouais, vous devez le croire difficilement.
Bien, quand il nous l'a annoncé, je ne le croyais pas encore. Là. C'est un peu comme il a été repêché, et ainsi de suite. Puis... Moi, je réalise assez tard là, les moments là. Fait que il nous l'a dit ça en FaceTime toute la famille là avant de signer son contrat, lui il le savait. Fait qu'il nous l'a dit en FaceTime toute la famille, puis on était vraiment sous le choc là. On pensait pas qu'il allait signer vraiment un contrat de même à long terme pour s'établir vraiment au Colorado. Écoute, c'est une grande confiance que le jour ça kick et l'Avalanche là apporte à Samuel envers lui, puis. Écoute, c'est une grande fierté pour nous. Là. On l'a su, puis on était sous le choc. Samuel était tout calme, comme d'habitude, comme si rien n'était. Il nous annonçait de même, ça, ben doucement. Puis je l'ai réalisé vraiment, là, je pense, ce matin. Puis en vous écoutant, tout ça, là, c'est là que je réalise de plus en plus là, qu'il a vraiment signé. Un moment donné, il m'a massé, puis il m'a éclaté, là, comme d'habitude. Là, fait que,
Monsieur Girard, c'est l'aboutissement d'un long parcours. Là. J'imagine que tous les membres de la famille ont fait beaucoup de sacrifices pour que Samuel puisse se rendre là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de temps investi, d'argent, d'accompagnement, de soutien. Alors, êtes-vous capable de nous parler un tout petit peu de ce parcours-là que Samuel a fait?
Ah, c'est sûr que je vais vous en parler. Écoutez, le plus grand accomplissement, je pense, c'est que c'est même pas Samuel qui l'a accompli. C'est sûr qu'il a fait des très gros efforts pour se rendre là, mais je pense que c'est sa sœur, ses deux frères, moi, mon épouse. Écoutez, pendant qu'on était partis sur la route, là, la fille gardait les deux autres garçons. Elle amenait ses études dans l'aréna, faisait ses études là. Elle faisait du sport, elle a arrêté. Jérémy, comme vous savez un peu son histoire, il a sacrifié son hockey pour Samuel parce qu'il savait que Samuel allait se rendre plus loin. D'ailleurs, quand Samuel nous a FaceTimé en groupe, en famille, sur Messenger, Jérémy n'était pas là. Jérémy, présentement, il est dans l'armée puis il est fort occupé. Fait qu'il m'a appelé le lendemain. Puis il pleurait beaucoup, puis il pleurait de joie pour son frère. J'étais content de voir ça, puis j'étais ému aussi là, en même temps. Là. Ça fait gros de voir ses enfants pleurer, mais pour une bonne cause comme ça, là, ça fait chaud au cœur de voir qu'il était vraiment content pour Samuel d'avoir signé un si beau contrat.
Écoutez, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il en prend, comment je pourrais dire, est-ce qu'il imagine l'ampleur de ce que ça peut être comme montant d'argent à gérer pour les années à venir?
Non, Samuel, il est terre à terre, comme je vous dis encore, il vit au jour le jour, puis non, il réalise pas vraiment là, l'ampleur de l'argent qu'il va avoir. Là, c'est sûr que là, il finit son dernier contrat d'entrée dans la Ligue nationale, qui gagne quand même beaucoup d'argent. Mais son agence, là, il y a un bon fiscaliste du Québec versus Los Angeles avec Pat Brisson qui s'occupe vraiment de son argent, de ses finances, puis de toutes ces choses. à fur et à mesure, Sam, c'est sûr qu'il va, il va se dire dans sa petite tête que ouais, c'est beaucoup d'argent puis tout ça, mais non, mais il est terre à terre, puis il fait beaucoup attention à son argent. Puis je pense qu'il va aller plus loin que ça encore.
Monsieur Girard, moi, j'aime ça vous entendre dire qu'il est terre à terre, parce que souvent, comme parents, puis on se met dans votre place à vous, là, dans votre position, puis on dit, est-ce que, parce qu'une carrière de joueur de hockey, ça dure quoi, 10 ans dans la Ligue nationale, tu sais, 10 ans, 12 ans, peut-être au maximum.
C'est une belle carrière, 10 ans.
C'est une belle carrière. Et tu te dis tout le temps, est-ce que ces jeunes-là qui reçoivent des montants astronomiques comme ceux-là, est-ce qu'ils se préparent pour l'après-carrière? Parce qu'on se dit tout le temps, là, ils sont dans le pic, là, ils sont au sommet de leur gloire, mais tantôt, il y aura une après-carrière. Est-ce que, j'aime ça vous entendre dire que les terre à terre, parce que j'en comprends là que le petit gars, il va être assez brillant là, pour être capable de planifier pour plusieurs années à venir là, avec ces sommes-là.
Ben, c'est ça. Ben, nous en avons déjà parlé, voyez-vous. Fait que, présentement, ben, il y a un très bon fiscaliste là, qui va s'occuper de son argent pour le futur, pour que si jamais il arrive de quoi, une blessure grave ou à la fin de sa carrière, qu'il va avoir vraiment de l'argent de placer. Sinon, investir, je sais que Samuel, il voulait investir dans le sport ou de même comme entraîneur ou autre chose, même pour travailler dans la radio ou de même pour animateur, quelque chose comme ça. Bon. Donc,
pas payant, non, pas payant.
Mais
ça va être pour s'amuser. Hein.
Oui, c'est ça, c'est ça va être, vous avez raison. Si
puis, je peux vous dire que c'est amusant.
Oui, c'est sûr. Samuel, c'est un petit... personne ne le sait, mais c'est un petit clown là, au travers de son chapeau. Là, fait qu'il aime beaucoup s'amuser aussi. Mais non, il est terre à terre, comme toujours. Puis, ainsi que nous autres, on y a inclus des bonnes valeurs que Samuel peut inclure à bien des jeunes aujourd'hui, puis à faire plaisir à bien des jeunes, puis à des fondations comme la fibrose qu'il tient à cœur. Samuel investit beaucoup là-dedans. Il donne des petits montants de temps en temps. Fait que il a un bon cœur, Sam.
Super. Ben, en tout cas, vous reviendrez à Shawinigan une fois de temps en temps.
C'est un modèle de persévérance, hein, Robert?
Oui, puis
hein?
Je vais vous dire une chose. Les années qu'on a passées à Shawinigan, ça a été de nos meilleures années. Vous êtes des gens formidables. Puis, écoutez, tous les gens de Shawinigan qu'on a connus, là, c'est des gens en or. C'est un peu des gens comme le lac Saint-Jean, qu'on va dire. Là, on est prêt à donner à tout. Là, puis, Shawinigan, chapeau à l'organisation Martin Mondou.
Salut. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser ça.
Merci, M. Girard. Et bravo. Félicitations à toute l'équipe, à toute la famille.
Merci à tous les supporters. Merci.
Voilà. Alors, voilà, c'est Anthony Girard, le père de Samuel. 5 millions par année autour des poussières, là, 5 millions par année sur 7 ans. C'est quand même le fun.
Ah non, écoute, c'est quelque chose.
Robert Ordonne, tu me demandais, c'est quoi le pourcentage de joueurs issus de la LHJMQ qui sont dans la Ligue nationale de hockey présentement?
Oui.
Au début de la saison 2018-2019, il y avait 82 joueurs issus de la LHJMQ. J'ai fait un petit calcul.
Oui.
Ça équivaut à environ 1%, 1,1%.
Ça veut dire que c'est vraiment très peu qui se rendent jusque-là. Hein?
Jusque-là, puis parmi ceux qui vont là, il y en a qui gagnent 500 000, 800 000, 1 million par année, pas plus, mais que Samuel peut être capable de mettre la main sur un 5-6 millions récurrent sur 7 ans, c'est un exploit pour un Québécois. C'est pour ça que je voulais te le soumettre.
C'était très le fun d'entendre le papa.
Il est entier.
Toute sa fébrilité, là, puis sa fierté, là, mais vraiment, c'était vraiment très sympathique.
Et j'espère qu'un jour, l'Avalanche du Colorado va mettre la main sur le gros trophée, puis qu'on aura droit, comme d'autres régions du Québec ont eu droit plus tôt cette semaine, à une belle parade, peut-être, à Shawinigan avec Samuel, puis la Coupe Stanley à bout de bras.
Félix n'a pas l'air convaincu.
Il ne faut pas que tu oublies que Samuel Girard vient du lac Saint-Jean.
Ben oui, mais il y a une partie, il nous en doit une.
Oui.
Il nous en doit une.
Oui, mais si on pense à Samuel Blais qui a joué son midget 3 ici avec les Estacades,
il
n'est pas venu avec la Coupe Stanley, il est allé chez lui à Montmagny.
Oui, mais c'est pas pareil. Arrêtez de me calmer, tout le monde veut me calmer de ce temps-là. Non, mais c'est parce qu'il a quand même gagné la Coupe Mémorial avec Shawinigan. Julie, c'est déjà terminé. Ça passe vite, hein?
Ça passe très vite.
Ça passe vite. En bonne compagnie.
Oui, toujours très agréable, Robert.
Je te souhaite un beau Grand Prix.
Puis un beau week-end à toi.
Beau Grand Prix.
Oui. Je ne sais pas. Je ne suis pas une fan beaucoup de... C'est un événement extraordinaire, là, mais pour moi, là, c'est tout ça un peu bruyant, honnêtement.
Tu y allais
là,
quand c'était une campagne électorale?
Non, parce que je suis allée chaque année pendant 17 ans. Ouais. Alors, j'y allais parce que, tout simplement, j'étais députée ou ministre de la région.
Ouais.
Et parce que c'était une belle rencontre, là. Mais c'est bruyant. Je ne passais pas mes journées, là. J'y allais une heure ou deux, là, mais pour rencontrer l'organisation. Alors, pour les saluer, les féliciter pour le beau travail, mais je ne restais pas là toute la journée.
Je te souhaite de passer une belle journée, parce qu'il en reste pas de profiter du beau temps. Julie Boulay, les lundis et les jeudis, il est déjà 13h, une courte pause d'actualité dans un instant.
De Trois-Rivières à Saint-Tite.